En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bien, maintenant nous allons passer à ce qui fait l'essentiel de notre ordre du jour aujourd'hui, la communication de M. Jean-Pierre Cotte, juge au tribunal international du droit de la mer, sur le tribunal international du droit de la mer. M. Jean-Pierre Cotte, agrégé des facultés de droit, a enseigné à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puis il a été député de la Savoie, ministre délégué chargé de la coopération et du développement, et membre du Parlement européen. Il s'est ensuite orienté vers la justice internationale. Il a été avocat et conseil devant la Cour internationale de justice et juge ad hoc dans cette Cour, ainsi d'ailleurs qu'au Tribunal international du droit de la mer, où il a été élu juge depuis 2002 et où il siège depuis cette époque. Et il est auteur de nombreux ouvrages et articles de droit international ou constitutionnel. Monsieur le juge, je vous donne la parole.
C'est là-dessus. Excusez-moi, je mélange toujours les boutons. Si ce n'était que ça, ce ne serait pas trop grave. Je tiens à vous remercier, monsieur le président, pour cet honneur et ce plaisir de présenter une institution judiciaire internationale assez peu connue, assez discrète, et c'est d'autant plus un plaisir pour moi. Notre institution est en effet le Tribunal international du droit de la mer. On me le soulignait à l'instant, ça tombe bien, en plein Vendée Globe. C'est donc une occasion pour nous, pour moi, de vous donner quelques indications sur notre tribunal. De plus, c'est le 20e anniversaire de notre tribunal, qui s'est mis en place en 1996. 20 ans, c'est toujours un anniversaire intéressant. On arrive à maturité. Au demeurant, lors de nos festivités, nous avons été honorés de la présence de Ban Ki-moon et du président de la République fédérale allemande, M. Gauck, qui a d'ailleurs fait une remarquable intervention sur la justice internationale en général, la Cour internationale de justice aussi bien que notre tribunal, et sur la place justement du tribunal dans le mécanisme de règlement des différends. 20 ans, je le disais donc, c'est l'âge de la majorité légale dans la plupart, dans un grand nombre d'États, et c'est un bon moment pour faire le point sur une institution. Le tribunal a été créé lors de la signature, enfin de l'adoption de la Convention nationale des Nations Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982, et il est entré en fonction en 1996. Première question, ce tribunal était-il nécessaire? Ce n'était pas évident à l'époque, si je me souviens bien. Aussi, peut-il être intéressant de voir pourquoi il a été créé. En 1982, la Cour internationale de justice était dans une mauvaise passe, si je puis dire. Elle n'était pas bien vue des États du tiers-monde, qui la considéraient comme une institution européenne, occidentale. Il y avait donc, à ce moment-là, une réaction du tiers-monde qui était entrée depuis la création de la Cour internationale de justice, qui date de 1920, comme chacun le sait, ou de 1946, 45-46, si l'on veut. Mais il y avait une pression de la part du tiers-monde pour demander que place soit faite aux nouveaux États dans le fonctionnement de la justice internationale. La solution a été de créer cette nouvelle institution. Ça a été aussi pour faire de la place de jouer sur l'inflation, et nous sommes passés des 15 juges du tribunal de la Cour internationale de justice à 21 juges pour le tribunal international du droit de la mer. Et les juges sont élus par l'Assemblée des États parties, alors que les juges de la Cour internationale sont élus par l'Assemblée générale des Nations unies et par le Conseil de sécurité, donc avec une certaine garantie de représentation, si je puis dire, du Conseil des membres permanents du Conseil de sécurité. Ce n'est pas du tout le cas chez nous. Je constate d'ailleurs que les États-Unis sont absents parce qu'ils ne sont pas membres de la Convention sur le droit de la mer, mais aussi que le juge britannique David Anderson a été battu en 2002, bien que membre permanent du Conseil, ressortissant d'un état permanent du Conseil de sécurité, et que moi-même j'ai été réélu avec quelques difficultés en 2011, dangereusement menacé par un candidat de Malte. Donc c'est dire que l'équilibre général de notre institution est un équilibre assez différent de celui de la Cour internationale de justice, et que le tribunal se souvient volontiers de sa coloration tiers-mondiste, sinon dans son fonctionnement au quotidien, du moins dans les principes. Notre tribunal est une petite boutique. Une petite boutique, surtout comparée à la Cour internationale de justice. Nous n'avons pas du tout l'organisation, les moyens de travail, le personnel de la Cour internationale de justice, et au demeurant, le luxe de moyens de la Cour internationale de justice nous fait envie. Nous avons 21 juges qui sont des juges de qualité, qui sont des juges à mi-temps. Car en effet, nous ne siégeons pas en permanence. Notre allocation de base, il faut bien parler argent de temps en temps, est un tiers de celle de la Cour internationale de justice. S'y ajoutent des vacations par jour de session. Les participants à la conférence sur le droit de la mer, qui avait donc fixé ces principes, avait calculé les indemnités sur la base d'un plein temps du tribunal. Nous en sommes très loin. Nous avons un nombre modeste d'affaires et par conséquent un nombre modeste de rémunérations. Nous travaillons seuls, contrairement à la Cour internationale de justice. Là encore, nous sommes les petits derniers, nous n'avons pas d'assistant. Un juge n'a pas d'assistant, nous n'avons pas de clerk, comme disent les anglo-saxons, contrairement à la Cour internationale de justice. Nous avons une secrétaire pour 5 ou 6 juges pendant la session. Et nous tapons nous-mêmes nos notes et nos articles sur notre ordinateur. Heureusement qu'il y a aujourd'hui les ordinateurs, sans ça, je ne sais pas très bien comment nous nous aurions fait. Nous avons la chance d'avoir un excellent greffier, M. Philippe Gauthier, qui est entouré d'une toute petite équipe de 5 ou 6 juristes, pas plus, ce qui n'est pas grand-chose, plus évidemment le personnel correspondant, en tout une quarantaine de personnes, chauffeurs compris. Et c'est à cette aune qu'il faut juger de l'efficacité du tribunal international du droit de la mer. De nouveau, nous sommes une petite boutique. Nous avons quelques spécificités. D'abord, excusez-moi, je me mélange un peu dans mes papiers. D'abord, en ce qui concerne la compétence. La compétence du tribunal international du droit de la mer, c'est l'interprétation et l'application de la convention de Montego Bay, la convention de 1982 sur le droit de la mer. Cette convention a une particularité qui est de prévoir le règlement obligatoire des différends relatifs à son interprétation et à son application. C'est la partie 9 de la Convention. C'est là une disposition tout à fait ambitieuse. Je crois que c'est la seule grande convention internationale qui prévoit le règlement obligatoire des différends relatifs à son interprétation et à son application. La plupart des conventions majeures prévoient un système de déclaration facultative ou bien l'insertion de clauses compromissoires, mais non pas une compétence générale comme celle prévue par la Convention de Montego Bay. Compétence obligatoire, disposition ambitieuse, un rien factice, il faut bien le dire, quand on y regarde de plus près. En effet, les parties sont obligées, en cas de différend dans l'interprétation ou l'application de la Convention, sont obligées de régler leurs différends par négociation ou par recours à une procédure obligatoire. Et dans ce dernier cas, si elles n'ont pas parvenu à se mettre d'accord par négociation, elles ont le choix entre le Tribunal international du droit de la mer, la Cour internationale de justice, un tribunal arbitral, un arbitrage donc, ou un tribunal arbitral spécial. C'est un cas particulier pour certains types de litiges. À défaut d'accord entre les parties sur une de ces instances judiciaires, c'est le tribunal arbitral, l'arbitrage donc, qui est l'institution judiciaire de repli, et non pas le tribunal international du droit de la mer, comme on aurait pu le penser du fait de la conclusion de la Convention sur le droit de la mer et de l'institution d'un tribunal exprès pour traiter de ces litiges. J'ajoute que, toujours un autre bémol quant à la compétence obligatoire du règlement judiciaire, les parties ont la possibilité de formuler des réserves dans leur acceptation, ou plutôt dans leur adhésion, au mécanisme de juridiction obligatoire. Ces réserves sont encadrées, sans doute, elles ne sont pas toutes permises, mais elles sont très larges. Enfin, j'ajoute, et c'est peut-être le plus important dans ce que j'ai pu vivre concrètement dans mon expérience du contentieux, le mécanisme des clauses compromissoires. Les clauses compromissoires, qui sont ces clauses inscrites dans les traités internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, et qui prévoient, en cas de différend, la saisine d'une instance judiciaire. Ce sont une bonne partie des litiges qui sont portés devant la justice internationale en général et devant le tribunal en particulier sont en effet le résultat de la clause compromissoire du traité dont l'interprétation et l'application est une difficulté. Or, ces clauses compromissoires se réfèrent très rarement au tribunal international du droit de la mer et ceci pour une raison tout simplement chronologique. Le Tribunal international du droit de la mer a été mis en place, je le rappelais tout à l'heure, en 1996, c'est-à-dire très tardivement. Or, la plupart des grands traités bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus bien avant cette date, c'est-à-dire avant que le Tribunal international n'existe, y compris les grandes conventions sur le droit de la mer. Et donc, il y a là un manque, si je puis dire, de clauses compromissoires en ce qui concerne le tribunal. Alors, le tribunal lui-même, quelques indications sur son fonctionnement. D'abord, une procédure consultative. Non, je m'excuse, je suis en train de... Oui, bah, écoutez, je commence par la procédure consultative. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'aurais dû être mieux organisé. Le tribunal a donc une compétence contentieuse et une compétence consultative. La compétence contentieuse est une compétence ordinaire. Je ne m'attarderai pas dessus, au demeurant, puisqu'elle ressemble fort bien à celle de tout tribunal international ou de nombreux tribunaux internes. En revanche, la procédure consultative est une procédure plus intéressante et plus discutable. Il y a en réalité deux procédures consultatives dans le cadre du tribunal international du droit de la mer. L'une prévue par la Convention sur le droit de la mer et l'autre inventée par le tribunal lui-même et contestée au demeurant à ce titre. La première procédure consultative, c'est celle qui est prévue par la chambre du tribunal des fonds marins. C'est une spécificité du tribunal, en effet, que d'avoir dans le cadre de sa structure un autre tribunal. Une chambre des fonds marins qui est une chambre qui est indépendante du tribunal, bien que formée par des juges du tribunal, et c'est en quelque sorte donc un tribunal dans le tribunal. Cette chambre a été mise en place au moment de la conclusion de la convention du Montego Bay. Et alors, au demeurant que l'on pensait que l'exploration des fonds marins, et en particulier l'exploitation des nodules, c'était à l'époque ce qui paraissait le plus intéressant, serait importante. La réalité a été plus modeste que ne le pensaient les rédacteurs de la Convention. Reste que les fonds marins, dans l'avenir, peuvent devenir un élément important d'exploration, d'exploitation et donc de conflits, de contentieux. L'exploration des fonds marins au-delà des zones relevant de la souveraineté ou des droits souverains des États membres, dans ces cas-là, pose un problème de compétence en cas de litige quant aux conditions de cette exploration et exploitation. Ici, la Convention a introduit la notion de patrimoine commun de l'humanité pour l'exploitation de ces zones se situant au-delà de la souveraineté des États riverains, en formulant deux idées. Premièrement, l'idée d'un partage de technologies dans l'exploitation des fonds marins, forte demande des pays en voie de développement qui craignaient sans cela que l'exploitation des fonds marins ne fût entièrement confisquée par les pays qui en avaient la capacité technologique, et associé à cela un mécanisme de partage des ressources résultant de l'exploitation des fonds marins. Tout ceci est resté un petit peu théorique à ce stade, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'exploitation des fonds marins n'a pas répondu en vérité aux espoirs qui étaient alors formulés, ou n'a pas encore répondu aux espoirs qui étaient alors indiqués. Or, pour prévoir le règlement de ces différends relatifs aux fonds marins, et donc à l'exploitation et à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins, le Tribunal international du droit de la mer était lui-même peu apte à résoudre ce type de conflit, car c'est un tribunal interétatique, et donc qui ne fait pas entrer en ligne de compte et dans le contentieux les acteurs privés. C'est la raison pour laquelle la Convention de Montego Bay a prévu la création d'une chambre des fonds marins, ouverte aux États parties, mais aussi à l'autorité des fonds marins, qui est l'autorité instituée par la Convention pour organiser l'exploitation des fonds marins, aux parties privées, donc à un contrat d'exploitation, que ce soit les entreprises d'État, les personnes physiques ou personnes morales, qui, elles, peuvent recourir à la Chambre des fonds marins en cas de difficulté. À cela s'ajoute la possibilité pour cette Chambre des fonds marins de donner des avis consultatifs à la demande de l'Assemblée et du Conseil. J'en viens maintenant à la procédure consultative elle-même. La procédure consultative est prévue, je viens de l'indiquer, pour la Chambre des fonds marins. Rien, en revanche, n'était prévu dans le traité en ce qui concerne la possibilité de saisir le tribunal lui-même d'avis consultatif. Et c'est le tribunal qui, dans son règlement, plus précisément dans l'article 138 de son règlement, a prévu la possibilité de sa saisine dans le cadre d'une procédure consultative par l'article 138 du règlement. Cet article 138 a été appliqué récemment dans une affaire relative au golfe de Guinée. Les États riverains du golfe de Guinée ayant saisi le tribunal pour donner un avis sur le problème de la pêche dans le cadre du golfe de Guinée au-delà des eaux territoriales des États membres du golfe de Guinée. Cette possibilité de donner un avis consultatif par application d'un article du règlement, donc adopté par le tribunal lui-même, sans demander la permission à quiconque, si je puis dire, a été contesté par un certain nombre d'États qui considéraient cela comme étant un abus de pouvoir, et notamment par la Grande-Bretagne, qui a été sans doute la plus en pointe pour contester la régularité, je n'ose dire la légalité, de la démarche du tribunal. Cela dit, nous le savons bien, les extensions de compétences en matière judiciaire ne sont pas choses nouvelles, sans remonter à Marbury contre Madison, qui était déjà un petit peu poussé. Le Conseil d'État, en 1873, dans l'arrêt Blanco, n'a rien fait d'autre que d'inventer une compétence contentieuse qui ne se trouvait dans aucun texte préalable. Ces petits coups de force juridictionnels sont donc choses fréquentes, enfin en tout cas ne sont pas inusitées en matière juridictionnelle. Et je constate au demeurant que le petit coup de force du tribunal lui-même n'a pratiquement pas été contesté lors des réunions des États parties et n'a pas été contesté lorsque la procédure consultative dans l'affaire du golfe de Guinée a été mise en place. Il y a eu de nouveau quelques protestations de la part notamment de la Grande-Bretagne, mais pour l'essentiel, cela n'a pas fait de vague et n'a pas été remis en cause lors des réunions annuelles de l'Assemblée des États parties de la Convention du droit de la mer, où les États auraient pu contester cette démarche, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, je voudrais peut-être donner quelques indications, ou plutôt tenter une comparaison, Monsieur le Président, entre le Tribunal international du droit de la mer et la Cour internationale de justice, si j'ose, en votre présence. Lorsque le Tribunal international du droit de la mer a été créé, les auteurs, les pères du Tribunal du droit de la mer souhaitaient une juridiction qui fut plus rapide, plus leste, je dirais, que la Cour internationale de justice. Qu'en est-il après un temps d'application? D'une part, je constate que la Cour internationale de justice, depuis cette époque, a fait de grands progrès en matière de traitement des affaires internationales, et en particulier en matière de rapidité de traitement des affaires internationales, et notamment sous votre présidence, Monsieur le Président, puisque vous aviez eu à souhait, justement, de mettre la Cour internationale de justice en ligne à cet égard. D'autre part, le tribunal lui-même maîtrise avec une célérité tout à fait acceptable les procédures. D'abord, les procédures d'urgence, et il est à noter que le tribunal a commencé par faire de l'urgence. Pendant la première dizaine d'années, le contentieux porté devant le tribunal international était essentiellement celui de la prompte mainlevée de l'immobilisation des navires, c'est-à-dire lorsque un navire est bloqué dans un port pour quelque raison que ce soit par les autorités du port. Il y a une procédure spécifique de l'article 292 de la Convention, qui est une procédure qui permet... en vérité, à l'état du pavillon, mais aussi à l'armateur au nom de l'état du pavillon, de saisir immédiatement le tribunal, qui est tenu dans un délai. L'ensemble de la procédure fait une trentaine de jours, ce qui est très rapide au regard de la lenteur des procédures judiciaires internationales. Dans une trentaine de jours, le tribunal examine la question de l'immobilisation du navire, ordonne éventuellement la main levée de cette immobilisation, moyennant une garantie financière qui est fixée par le tribunal. Et donc, c'est une procédure rapide, c'est une procédure d'urgence qui a fort bien marché au début, qui a tellement bien marché d'ailleurs que, en fin de compte, à partir du moment où le tribunal a fixé le niveau des garanties correspondantes, les États ont appliqué en réalité la norme prévue par le tribunal et ont tari la source de ces belles affaires qui nous venaient régulièrement jusqu'à il y a une dizaine d'années. Cette procédure-là est une procédure qui n'est pratiquement plus appliquée. La dernière fois, ça a dû être en 2010, je crois, pour les affaires Oshimaru et Tomimaru qui opposaient le Japon à la Russie. Pour les procédures portant sur le fond, en revanche, je constate que les délais sont très comparables entre la Cour internationale de justice et le tribunal. D'abord, la procédure écrite prend le temps que ça prend, l'urgence n'étant pas en soi une vertu, et les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite, mémoire contre mémoire, sont tout à fait comparables. En ce qui concerne la procédure orale, c'est un peu la même chose, il n'y a pas de différence fondamentale. La seule raison pour laquelle le tribunal est quand même sensiblement plus rapide que la Cour internationale de justice, c'est parce qu'il a moins d'affaires, c'est parce que son rôle est moins chargé. Et parce que de ce fait, lorsqu'une affaire est déposée au tribunal, elle est assez rapidement inscrite au rôle et la procédure est lancée beaucoup plus rapidement qu'à la Cour internationale de justice. Aujourd'hui que la Cour a peu à faire, elle est probablement à peu près à la même vitesse, si je puis dire, que le tribunal, mais il y a quelques années encore, il ne suffisait pas d'introduire une affaire à la Cour, il fallait encore attendre de longues années que l'affaire fût inscrite au rôle de la Cour. Un mot sur une crainte qui a été exprimée lors de la création du tribunal et renouvelée depuis à plusieurs reprises, moins récemment, celle d'une zizanie jurisprudentielle résultant de la multiplication des tribunaux internationaux et la création, après la Cour internationale de justice, du tribunal international pour le droit de la mer, mais encore des couacs qui avaient été notamment notés du côté des juridictions pénales internationales au regard des décisions de la Cour internationale de justice. Cette zizanie ne s'est pas avérée en ce qui concerne les relations entre la Cour internationale de justice et le tribunal. Le tribunal a pris soin de propos délibérés de s'inscrire fidèlement, dirais-je, dans le sillon de la jurisprudence de la Cour internationale de justice et de ne pas la contredire dans ses propres décisions. Il cite en abondance les arrêts de la Cour internationale de justice dans sa propre jurisprudence et a eu le plaisir récemment de voir que la Cour internationale de justice lui rendait la politesse en citant certains de nos arrêts, ce qui nous a évidemment fait bien plaisir venant de la grande sœur. Au demeurant, les contacts sont fréquents entre la Cour internationale de justice et le Tribunal international du droit de la mer, entre les deux greffiers, les deux Philippe, si je puis dire, M. Couvreur et M. Gauthier. Je devrais quand même connaître le nom de mon greffier et M. Gauthier. Mais encore, réunion entre les juges et... à tel point que René Abraham, le président actuel de la Cour internationale de justice, est en même temps juge ad hoc, c'est-à-dire désigné par une partie qui n'a pas de juge sur le siège, au Tribunal international du droit de la mer, et que nous avons le plaisir, l'honneur, d'avoir comme collègue dans notre délibération, dans une affaire en pendante, le président de la Cour internationale de justice comme juge ad hoc. J'en terminerai, Monsieur le Président, en posant la question, fallait-il créer le Tribunal international du droit de la mer ? Je la repose, vous étiez à ce moment-là dans les affaires, si je puis dire, au titre de la France. Je ne suis pas sûr que la France ait été très enthousiaste de cette création, mais bon... le tribunal a été créé. Maintenant qu'il est créé, c'est chose faite. Et je crois que ceci ayant été décidé, le tribunal a trouvé sa place parmi les juridictions internationales. Il a une jurisprudence qui, me semble-t-il, est honorable. Les conflits de compétences éventuels avec d'autres juridictions internationales et notamment avec la Cour internationale de justice ont pu être évités ou réglés à la satisfaction de tous. Donc je pense qu'en l'état actuel des choses, le tribunal remplit une fonction qu'on a pu estimer comme superflue au début, mais qui aujourd'hui est acceptée par tous et que nous tenons une place honorable dans le cadre de la juridiction internationale. Merci, Monsieur le Président.